Bonsoir, chers frères et sœurs. Pour l'étude biblique d'aujourd'hui, je vous propose d'entrer rapidement, tout de suite, dans le vif du sujet. J'ai intitulé mon étude biblique « La conscience que Jésus avait de lui-même ». Il s'agit de nous poser ensemble la question « Comment Jésus a-t-il compris qui il était ? Comment a-t-il compris sa véritable identité ?» À l'âge de 12 ans, Luc nous dit de Jésus qu'il progressait en sagesse, en stature et en grâce. À cet âge-là, à 12 ans, Jésus avait déjà compris qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Vous savez, c'est cette fameuse histoire quand Marie-Joseph et Jésus vont au temple à Jérusalem pour la Pâque et que sur le chemin du retour, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié Jésus qui était au temple à parler avec les maîtres de la loi. Jésus avait déjà compris qu'il devait s'occuper des affaires de son père. À l'évidence, dans ce récit, il ne s'agissait pas des affaires de son père adoptif Joseph, même si Jésus a sans doute été formé au métier de charpentier par Joseph. Lorsque Jésus dit « mon père », il s'agit de Dieu le Père. On sait très peu de choses sur l'enfance de Jésus. On connaît des éléments à propos de sa naissance, cet épisode au temple à Jérusalem à l'âge de 12 ans, mais sinon, rien d'autre nous est dit sur l'enfance de Jésus. Il y a des récits qui nous sont rapportés dans certains évangiles apocryphes qui ont été repris par le Coran, qui nous rapportent des faits surprenants concernant l'enfance de Jésus. Jésus aurait parlé alors qu'il était encore bébé. Il aurait aussi créé un oiseau à partir de la terre, mais ces faits ne nous sont pas rapportés dans les évangiles écrits par les premiers disciples. Il ne s'agit pas de récits fiables. On peut penser qu'ils ont tout bonnement été inventés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les évangiles apocryphes ont été écrits sous le pseudonyme d'un apôtre, sous le nom d'un apôtre, mais pas par les apôtres eux-mêmes, ceux qui étaient directement témoins de la vie de Jésus. Donc nous ne pouvons pas être sûrs de ce que nous racontent ces récits des évangiles apocryphes. La seule chose que nous pouvons supposer concernant l'adolescence de Jésus, c'est que son père adoptif, Joseph, est peut-être décédé pendant cette période. Ce qui expliquerait qu'il n'est plus mentionné dans les évangiles, on n'a plus aucun élément de la vie de Joseph dans les évangiles. Joseph est néanmoins mentionné, mais juste au passage, par rapport à Jésus, justement, qui est reconnu comme le fils du charpentier. Mais cela n'implique pas nécessairement que Joseph était encore en vie à ce moment-là. Un autre indice aussi nous prouve que Joseph était mort, au moins au moment de la mort de Jésus sur la croix, puisqu'il confie sa maman, donc Jésus confie Marie à Jean, en disant à son disciple « Voici ta mère ». En tant que fils aîné, c'était à Jésus de s'occuper de Marie si Joseph était décédé. Et là, comme Jésus va mourir, il prévoit la suite, il ne pourra plus s'occuper de sa maman. Et donc, il confie cette mission, cette tâche, à Jean qui prendra Marie chez lui. C'est bien la preuve que Joseph n'est plus en vie à ce moment-là. Jésus a donc connu la perte de son père adoptif. Le baptême de Jésus, alors qu'il avait environ 30 ans, a aussi été un événement important. Dieu le Père fait entendre sa voix pour dire à Jésus son amour. Et ce message est redit lors de l'épisode de la Transfiguration. Ça ne fait aucun doute que ces événements forts ont dû conforter Jésus dans son identité en tant que fils de Dieu. Mais que dit Jésus de lui-même? Nous allons nous intéresser à certains passages des évangiles. On les lira pas forcément tous, mais je donnerai des références. Je vous encourage aussi peut-être à écouter cette étude biblique avec votre Bible à côté, et à de temps en temps vous arrêter pour aller lire les versets dont je mentionnerai la référence. Donc on va s'intéresser, je le disais, aux évangiles, mais également à des textes de l'Ancien Testament. On n'aura pas vraiment, on n'abordera pas les épîtres, parce que finalement, les épîtres du Nouveau Testament, épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, ne nous révèlent que peu sur la manière dont Jésus lui-même se présentait. Alors, je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, Jésus s'est compris comme étant le Messie, mais un Messie qui devait souffrir. Jésus s'est compris comme celui qui allait remplir le triple office de prêtre, roi, prophète, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, Jésus s'est compris comme étant Dieu lui-même. Alors, nous n'allons pas aborder le sujet sous un angle philosophique. Par exemple, la question « Comment est-ce que l'infini de l'être divin peut-il être contenu dans le fini d'un corps humain ?» C'est ce qu'on appelle en théologie l'extra-calvinisticum. Nous n'allons pas entrer dans de telles considérations pour cette étude. Il ne s'agit pas non plus dans cette étude de résumer toute la christologie dans une seule étude biblique, mais plutôt de nous poser une question précise sur la personne de Jésus. Comment Jésus s'est-il compris et que dit-il de lui? Alors il faut être humble, bien sûr, en se posant cette question. Nous savons que lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de la personne la plus admirable qui a marché sur cette terre. Nous parlons aussi de quelqu'un qui nous dépasse et de loin, puisqu'il a tout créé, selon l'hymne au début de l'Épître aux Colossiens. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne nous sont pas révélées, ces choses-là appartiennent à Dieu. En revanche, ce qui est révélé l'a été pour notre instruction et notre croissance spirituelle, et nous voulons en tirer profit ce soir. Ce qui est révélé est suffisant largement pour nous conduire dans l'adoration de la personne de Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour nous ce soir de toujours mieux connaître Jésus et mieux l'aimer. Alors Jésus s'est compris comme le Messie, un Messie qui devait souffrir. Peu de fois Jésus affirme être le Messie. C'est ce qu'on appelle le secret messianique ou l'énigme messianique. En Matthieu 16, verset 20, Jésus demande formellement à ses disciples de ne rien dire après la belle confession de foi de Pierre qui lui a dit « Tu es le Christ ». Jésus ne refuse pas ce titre qui signifie, donc Christ signifie « oint », celui qui est oint, qui a reçu une onction, qui a été consacré pour une mission particulière, et on peut aussi dire « le Messie », ça c'est la racine hébraïque du mot, en grec. C'est Christos, le Christ, c'est Machiar en hébreu, donc Machiar, le Messie. En français, on pourrait dire celui qui est oint, qualifié pour une mission précise. Donc Jésus ne refuse pas ce titre, mais il demande à ses disciples de ne pas le dire. Jésus est peu enclin à utiliser ce terme car certains juifs de son époque attendaient un Messie, mais ils avaient une toute autre image du Messie. Selon eux, le Messie devait les délivrer de façon militaire de l'oppression romaine. Un Messie politique, un Messie chef d'armée, on pourrait presque dire. Cette attente s'est surtout développée dans la période intertestamentaire, notamment dans des écrits comme les psaumes de Salomon. Évidemment, là aussi, il s'agit d'écrits pseudépigraphiques, pseudonymiques. Ce n'est pas Salomon qui, dans la période intertestamentaire, est revenu sur terre pour écrire ses psaumes. Évidemment, non. Alors, Jésus a été réticent, effectivement, à utiliser le terme de Messie, le concernant, mais une fois néanmoins, il affirme, en Jean 4, verset 25, qu'il est celui qui doit venir. Il a pu dire à la Samaritaine, « Je le suis », lorsque la Samaritaine lui a posé la question, « Es-tu celui qui doit venir ?» Il a pu le dire parce que les Samaritains n'avaient pas cette attente messianique déformée. Les Samaritains n'avaient pas de contact avec les Juifs depuis de nombreux siècles, et leur théologie différait de celle des pharisiens ou des autres mouvements juifs. Ils ne se basaient d'ailleurs pour leur croyance, leur théologie, que sur les 5 premiers livres de la Bible, hein, le Pentateuque. Et en plus, c'était un Pentateuque légèrement différent qu'on appelle le Pentateuque samaritain. C'est logique en même temps. Hein. Alors même si Jésus l'a peu souvent affirmé, nous pouvons dire qu'il s'est compris comme étant le Messie promis. Pas un Messie qui a pour mission de débouter les Romains de Palestine, mais un Messie qui devra souffrir pour les péchés des êtres humains. Lorsqu'on fait la synthèse des différents chants du serviteur du prophète Ésaïe et de ce qu'on appelle le livret de l'Emmanuel, les chapitres 6 à 11 du même prophète Ésaïe, on aboutit à la conclusion que celui qui doit venir sera un serviteur souffrant et non un libérateur politique. Jésus l'avait bien compris, car il a médité les Écritures. Il a compris que la parole de Dieu parlait de lui et qu'un certain nombre de passages le concernaient directement. D'ailleurs, quand il est avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il fait une étude biblique, en fait, à ses disciples et il leur montre dans l'Écriture tout ce qui le concerne. Une étude biblique à laquelle on aurait bien sûr tous aimé assister. Lorsque Jésus prend la parole dans la synagogue de Nazareth, on peut lire ce passage dans Luc 4, Jésus déroule le rouleau d'Ésaïe et puis lit un passage et dit ensuite « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Jésus avait conscience que certains passages de la parole de Dieu le concernaient directement. Lors du baptême de Jésus aussi, c'est le texte d'Ésaïe 42, verset 1 qui est cité. Et bien sûr, nous avons Ésaïe 53, ce chapitre qui est appelé l'Évangile de l'Ancien Testament par certains commentateurs. Au verset 12 de ce chapitre, il est écrit que le serviteur de l'Éternel devra mourir pour les nombreux, ou pour beaucoup de personnes, on pourrait traduire. Ce texte est cité au moins 3 fois dans les évangiles, Luc 22, 37, Marc 14, 24, Marc 10, 45. On peut, donc là c'est clair, hein, le serviteur de l'Éternel devra mourir. Il ne s'agit pas d'un Messie qui va triompher par les armes, hein, par les armes des hommes. On peut encore remarquer que Jésus utilise la figure du berger. Jésus est le berger, mais c'est le berger qui est frappé en Marc 14, 27. C'est une image que Jésus tire d'une prophétie de Zacharie. Zacharie 13, verset 7. Le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Jésus avait bien compris qu'il était le Messie, et que le Messie devait souffrir. Alors maintenant, Jésus s'est aussi compris comme étant prêtre, prophète et roi. C'est ce qu'on appelle le triple office de Jésus-Christ. C'est une façon de présenter son ministère que nous avons hérité de la Réforme, et notamment de Calvin. Si je voulais être plus précis, je dirais que ce n'est pas Calvin qui, le tout premier, a présenté le ministère de Jésus en 3 parties, prêtre, prophète, roi. Cette façon de parler de Jésus existait déjà avant Calvin, mais c'est Calvin qui l'a largement développé et publié dans ses ouvrages. Cette façon de parler de Jésus avec ce triple office, hein, de prêtre, prophète et roi est particulièrement utile car cela nous permet de faire le lien entre l'œuvre et la personne de Jésus. Et c'est suite à Calvin d'ailleurs, les catholiques ont repris aussi cette notion de triple office, elle s'est un peu imposée dans le monde de la théologie systématique pour parler de Jésus. et de son ministère et à la fois de sa personne, en même temps de sa personne. Alors tout d'abord Jésus comme sacrificateur, comme prêtre. Jésus dit à plusieurs reprises qu'il donne sa vie volontairement, que personne ne le force, qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus a donc conscience qu'une de ses missions était de mourir, de donner sa vie en sacrifice. L'œuvre du serviteur, dans Ésaïe 53, c'est justement en hébreu « hacham », le sacrifice pour le péché, quelquefois traduit « sacrifice de réparation ». Jésus est à la fois le sacrifice et le sacrificateur, puisqu'il s'offre lui-même en sacrifice pour le péché. Cet aspect sera repris et développé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Jésus a médité les Écritures. Et il a compris, dans les Écritures aussi, quel est son rôle en tant que sacrificateur. Le psaume 110, qui est un psaume messianique, contient aussi clairement la figure du sacrificateur. Jésus est aussi prophète. Dans le discours de Pierre à la Pentecôte, en acte 3, verset 22, Jésus est présenté comme le nouveau Moïse. C'est un texte du Deutéronome qui est cité là, Deutéronome 18, versets 15 et 16. Un prophète comme Moïse qui doit venir. Dans Jean 6, Jésus se présente lui-même comme la vraie manne, le pain descendu du ciel, des images aussi qui nous renvoie au temps de Moïse. Mais Jésus est plus que Moïse, plus qu'un prophète. Vous savez, il y a un passage où Jésus appelle quelqu'un en lui disant « Suis-moi » et cette personne lui demande « Mais est-ce que j'ai le droit d'aller voir ma famille pour leur dire au revoir ?» Et Jésus lui dit « Mais non, celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Et c'est une parole un peu dure, mais elle nous montre à quel point l'autorité de Jésus est forte et va au-delà de l'autorité d'un prophète. Lorsque Élisée demande, qui a été appelé par Élie, demande l'autorisation d'aller voir sa famille pour leur dire au revoir, Élie lui permet. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Nous voyons que Jésus est plus qu'un prophète également dans le sermon sur la montagne. Jésus dit « Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis ». Alors « vous avez entendu dire », c'était l'enseignement des rabbis itinérants. Jésus n'était pas le seul à enseigner de façon itinérante. Les rabbis pharisiens faisaient de la même façon, et même avant l'époque de Jésus. C'est l'enseignement des rabbis qui interprétaient la loi, des fois d'une mauvaise façon. Vous avez entendu dire, Jésus dit cela à la foule, qui avait entendu l'enseignement des rabbis, interpréter la loi, mais moi je vous dis, affirme Jésus. Et puis lorsque il dit cela, ça arrive quelques fois dans le sermon sur la montagne, ce que Jésus dit ensuite, c'est non seulement une bonne lecture de la loi, une bonne interprétation de la loi, mais souvent Jésus va même encore plus loin que la loi. Jésus est plus que Moïse. Le sermon sur la montagne est d'ailleurs comme une nouvelle loi. Dans l'évangile de Matthieu, particulièrement dans cet évangile, on peut remarquer que Jésus revit l'histoire d'Israël, il revit l'Exode. Déjà Jésus et sa famille fuient en Égypte, ils sont en Égypte. Et puis ensuite ils reviennent d'Égypte, et très rapidement, dans le récit de l'évangile de Matthieu, on a ensuite le baptême qui, de façon imagée, nous renvoie à la traversée de la mer des roseaux, traversée après laquelle le peuple s'est retrouvé dans le désert, comme par hasard, avec un grand D, Jésus va dans le désert, et il est tenté dans le désert par Satan, avec des tentations comme celle de la nourriture, tentation que le peuple de l'Ancienne Alliance a aussi connue dans le désert. Et Jésus répond à l'accusateur par des citations bibliques tirées du livre du Deutéronome. Après cela, il monte sur une montagne, comme Moïse était monté sur le Sinaï, puis il commence une série de prédications par 9 béatitudes, une sorte d'énéalogue qui vient remplacer, disons, qui vient accomplir le décalogue de l'Ancienne Alliance. Jésus est donc bien le nouveau Moïse qui était promis en Deutéronome 18, versets 15 et 16. Un des rôles du prophète, je rappelle que prophète signifie porte-parole, est aussi l'enseignement. Jésus était un enseignant itinérant. Pendant les 3 ans de son ministère, il a enseigné ses disciples et aussi de grandes foules. Et Jésus, dans son enseignement, a utilisé des paraboles. Il a utilisé des paraboles pour leur aspect pédagogique, certes, mais en utilisant des paraboles, Jésus a aussi accompli les paroles du psalmiste. Et ça, c'est intéressant. Je vous lis simplement un texte de l'évangile de Matthieu, Matthieu 13, versets 34 et 35. Jésus dit tout cela aux foules en utilisant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans paraboles. Il agissait ainsi afin que s'accomplisse cette parole du prophète. Je m'exprimerai par des paraboles. J'annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. Et le verset qui est cité là, c'est un verset du livre des Psaumes, psaume 78, verset 2. Jésus a donc volontairement aussi utilisé des paraboles pour accomplir la parole de Dieu. Jésus se sait roi également. Il est le nouveau David. En Marc 12, je vais lire les versets 35 à 37. Alors que Jésus enseignait dans le temple, il posa cette question. Comment les spécialistes des Écritures peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David ? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même l'appelle Seigneur. D'où vient alors qu'il soit son fils ? La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Ce court texte reprend des éléments du psaume 110. Dans ce psaume, le rôle du sacrificateur et du roi ne font plus qu'un, alors que cela était formellement interdit par la loi de Moïse. Un autre texte dans lequel nous voyons se rapprocher le sacrificateur et le roi, les figures du roi et du prêtre qui se rapprochent et même qui fusionnent, c'est Zacharie 6, 13. Je vous laisserai prendre cette référence et la lire. Lorsque Jean-Baptiste fait interroger Jésus et qu'il lui pose la question « Mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus répond en affirmant sa royauté absolue, sa seigneurie. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris. Le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne du roi Jésus-Christ. Son entrée à Jérusalem, en Marc 11, est clairement une expression de sa royauté. Et il est intéressant de remarquer que Jésus entre sur un âne, comme le prédisait le prophète Zacharie. Cela signifie que Jésus s'est compris comme celui qui devait accomplir cette prophétie, puisqu'il ordonne lui-même aux disciples de chercher un âne. Enfin, il dira clairement devant Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus avait conscience d'être le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Jésus a donc bien compris, à travers les Écritures surtout, qu'il était prêtre, prophète et roi. Enfin, Jésus avait conscience d'être Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'affirme. Avant qu'Abraham fût, je suis, a-t-il dit. C.S. Lewis a dit que quelqu'un qui a affirmé ce que Jésus a affirmé est soit un fou, soit le Fils de Dieu. Il ne nous a pas laissé l'option de le considérer uniquement comme un sage ou un bon enseignant. Et cela, les Juifs de son époque l'ont bien compris. Le théologien Albert Schweitzer a, dans sa thèse de théologie, évalué Jésus au niveau psychiatrique et il en conclut malheureusement que Jésus était fou. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit des choses qu'il n'a pas faites selon lui, notamment détruire le temple et le rebâtir. Albert Schweitzer n'avait pas bien saisi peut-être le sens de ses propos dans la bouche de Jésus, et aussi parce que Jésus avait dit qu'il reviendrait bientôt et que ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu. Mais alors comment Jésus, lui, a-t-il parlé de sa divinité ? De plusieurs façons, mais entre autres à travers l'expression « fils de l'homme ». Plusieurs ont vu dans cette expression une preuve de la pleine humanité de Jésus, ou encore une manière de se présenter pour faire réfléchir et surprendre, afin que personne n'ait d'idée préconçue sur qui était Jésus. La foule s'interroge, hein, « Qui est ce fils de l'homme ?» Mais à part ce but pédagogique, il y a derrière ce titre un texte de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Daniel. Et c'est presque certain que Jésus reprend ce titre de fils de l'homme en raison de ce texte que je vous lis maintenant, Daniel 7, versets 13 et 14. « Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Je voyais venir quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il venait parmi les nuées des cieux. Il s'avança en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues le servent. Sa domination durera pour toujours, elle n'aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit. » Voici ce texte dans lequel nous voyons que le Fils de l'homme est une personne de rang divin. Il vient du ciel sur les nuées, et dans la parole de Dieu, la nuée indique qu'il s'agit d'une manifestation de Dieu. Rappelez-vous la colonne de nuée dans le désert, ou la fumée, hein, la nuée aussi qui remplit le temple lors de son inauguration au temps de Salomon. Jésus reprendra même de façon extrêmement claire ce texte de Daniel 7, 13 devant le grand prêtre en se l'appliquant, Marc 14, 62. Il n'en fallait pas plus pour que le grand prêtre déchire ses vêtements, car la prétention de Jésus est énorme et il l'a bien comprise. Jésus n'affirme pas seulement qu'il est le Messie, comme d'autres le prétendaient à son époque, mais qu'il est d'origine divine. Et avant ce moment, précédant directement sa mort, Jésus avait affirmé sa divinité tout au long de son ministère, à plusieurs reprises et de différentes manières. En Jean 10, Jésus déclare « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un ». Et vous le savez, dans ce même évangile, l'évangile de Jean, Jésus reprend le titre divin « Je suis », qui est le nom avec lequel Dieu s'était révélé à Moïse dans le buisson ardent, hein, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la vigne, je suis la manne, je suis la porte, je suis le bon berger, etc. Et enfin un texte aussi, Jean 8, verset 24, correctement traduit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors ça fait un peu bizarre, la première partie de la phrase a l'air incomplète, hein, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Certaines traductions ajoutent « si vous ne croyez pas que je suis le Seigneur ». Mais dans le texte, il n'y a pas « le Seigneur ». Donc, si nous voulons traduire fidèlement, c'est « si vous ne croyez pas que je suis ». Et là, clairement, Jésus reprend ce titre divin sans même y ajouter un complément, comme il le fait dans d'autres paroles. Ajoutons encore que les œuvres de Dieu, surtout dans un contexte juif monothéiste, Jésus s'attribue certaines œuvres de Dieu. En Jean 16, il dira que tout ce que Dieu a est aussi à lui. Et on pense bien sûr à la prérogative, l'autorité, le pouvoir divin de pardonner les péchés. Lorsque Jésus dit cela, vous savez, au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, cela vraiment interpelle la foule. Et Jésus démontre qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il le démontre en disant « J'ai aussi le pouvoir de lui dire « Lève-toi et marche ». Jésus montre qu'il est l'égal de Dieu, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a un texte aussi qui dit qu'on peut prier Jésus. En Jean 14, verset 14, on peut lire « Si vous me priez en mon nom ». Alors, très peu de traductions, peut-être même aucune traduit ce verset de cette façon. Mais si on regarde bien dans l'original en grec, c'est bien cette leçon que nous devrions retenir. Hein. « Si vous me priez en mon nom ». D'autres manuscrits contiennent aussi « Si vous me priez en mon nom », mais la critique textuelle fait que nous devrions préférer cette lecture la plus difficile, hein, « Si vous me priez en mon nom ». Jésus dit lui-même qu'il peut être l'objet de la prière, ce qui est réservé à Dieu. Or, de façon générale, c'est vrai que nos prières s'adressent au Père, au nom du Fils de Jésus, et inspirées par l'Esprit, Ceci dit, il y a une ou deux prières adressées à Jésus dans le Nouveau Testament. En Marc 10, Jésus demande au jeune homme riche de tout quitter pour lui. Quelle prétention ce serait si Jésus n'était pas Dieu. Tout quitter, tout vendre, et donner l'argent aux pauvres pour suivre un homme, ça serait de l'idolâtrie. Même l'omniprésence, qui est une qualité divine, est une qualité de Jésus. Alors que Jésus était encore sur la terre, il dit à ses disciples, un passage qu'on aime souvent se rappeler, lorsqu'on se réunit et qu'on est peu nombreux, hein, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. » Lorsque Jésus dit cela, il est encore sur terre. Jésus affirme de façon forte qu'il est Dieu, qu'il est omniprésent comme Dieu, qu'il est la présence même de Dieu. Je vous renvoie à un excellent message de Jean-Marc, sur ce texte. Jésus est la Shekinah de Dieu, la présence, la manifestation de Dieu, et il est présent lorsque des personnes se réunissent en son nom. Jésus, lui qui était rempli de l'Esprit-Saint, a donc bien conscience d'être Dieu. La lecture des évangiles ne nous laisse pas de doute à ce niveau-là. Jésus s'est compris comme étant le Messie, un Messie serviteur qui devait souffrir. Il s'est compris comme étant prêtre, prophète et roi. Et enfin, Jésus s'est compris comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire de nature divine. Certaines de ces affirmations soulèvent la question du comment, j'en ai bien conscience. Hein. Et c'est un autre point fondamental de la christologie, de la doctrine de la personne de Jésus-Christ. Ça a été une des grandes questions aussi dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Ce n'est qu'au 5e siècle, hein, en 451, au concile de Chalcédoine, qu'a été formulée la doctrine de l'union hypostatique dans sa version définitive, c'est-à-dire l'union de deux natures, la nature humaine, la nature divine, dans une seule personne, la personne de Jésus-Christ, qui est à la fois donc 100% homme et 100% Dieu. Même si on ne comprend pas tout, on en sait suffisamment pour reconnaître en Jésus le Seigneur, on en sait suffisamment pour l'adorer et alimenter nos prières. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Prions pour conclure ce temps. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur terre pour nous sauver, d'avoir accepté de naître humblement, d'avoir accepté de subir toutes sortes de pressions et d'incompréhension durant ton ministère. Merci d'avoir accepté de subir les mauvais traitements et la mort. Nous reconnaissons ta divinité. Nous nous inclinons devant ta royauté. Nous sommes émerveillés par ton amour et ta sagesse. À toi qui as été pour nous sacrificateur, prophète et roi, soit la gloire. Amen.